France Culture.
À voix nue, deuxième épisode, Job, l'autre dieu. Bonjour Marion Muller-Collard.
Bonjour Caroline Brouy.
On vous a quitté dans le premier épisode à la fin sur cette thèse que vous soutenez en 2006 sur la figure biblique de Job. Job, vous l'aviez rencontré bien avant parce que je crois que vous avez fait du théâtre quand vous étiez toute jeune. Et vous l'évoquiez à 16 ans, vous appreniez par cœur des extraits du livre de Job comme des poèmes de Victor Hugo. Alors d'abord, racontez-nous comment vous avez découvert ce livre de Job, vous. Et puis, qu'est-ce que c'est cette figure de Job ?
Je me souviens pas comment je suis tombée dans ce livre, mais en tout cas j'en suis jamais totalement ressortie, et c'est vrai que ma petite hypothèse, qui ne vaut rien du tout sur le plan de l'exégèse, c'est que ça a pu être un livre écrit pour le théâtre, enfin c'est très théâtral. Et qu'à l'époque où je faisais du théâtre, oui, je me lançais dans ces longs monologues de Job. Alors on est vraiment au climax de la dramaturgie. C'est si on parle de dramaturgie, on y est complètement.
C'est le personnage qui vous a happé, ou les mots?
C'est les mots. C'est un langage très figuré, très poétique. Cette poésie biblique qui est très particulière, hein, hébraïque. Mais c'est aussi la configuration. Enfin, la configuration Job. Donc l'histoire. On va raconter une histoire. Et c'est une histoire. Il y a quand même de sérieux doutes sur le fait que c'est pu être un personnage qui a véritablement existé. Et avant de la raconter, j'en profite aussi pour dire que dans la culture juive, en fait, la question de la vérité ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on pense que la question, c'est, comme disent les enfants, est-ce que ça s'est passé en vrai? Ça veut dire, est-ce que ça s'est réellement passé? Et en fait, la vérité et la réalité et l'exactitude sont trois notions tout à fait différentes dans la culture juive. Et donc, on peut raconter une histoire qui va faire vérité quand bien même elle est imaginée. Et donc, l'histoire qui est construite autour de ce personnage Job, c'est une histoire qui s'attaque à la question de la souffrance et du mal, en fait. Et pour mettre ça en scène, il y a au départ un espèce de pari entre Dieu et Satan. Tout est gênant dans cette histoire parce qu'en fait, c'est Dieu qui va voir Satan, qui le provoque en disant « As-tu vu mon serviteur Job, comme il me craint, comme il est exemplaire, comme il est pieux, comme il fait tout bien comme il faut ?» Et Satan dit « Oui, mais est-ce pour rien qu'il te craint ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui et ses biens, etc. » Et donc, s'ensuit un espèce de pari au-dessus de la tête de Job, de dire, touche à ses biens, touche à tout sauf à sa vie, et puis on verra ce qu'il arrive. Et donc, première salve de malheur pour Job, il perd, quand on dit bien, ça commence par ses enfants, son cheptel, toutes ses propriétés, et il se retrouve mis à nu, à la fois affectivement et matériellement. Et il y a une deuxième salve qui va toucher au corps, à la santé. Et alors sa femme, il perd tout sauf sa femme. Alors, on ne sait pas, le texte ne dit pas si c'est une malédiction supplémentaire ou pas. Sa femme l'enjoint de maudire Dieu en face, et dans un premier temps, Job refuse. Et il va y avoir ce temps où ses amis vont venir vers lui et partager avec lui ce rituel juif du deuil de 7 jours de silence et de voilà. Et au bout de 7 jours, Job va ouvrir la bouche et il va pas maudire Dieu en face. Il va faire quelque chose d'un petit peu plus précis que ça. Les premiers mots qu'il va dire en hébreu, c'est Yir Rocher, que la ténèbre soit l'exacte antithèse des premiers mots que prononce le Dieu créateur de la Genèse pour que quelque chose d'autre que le chaos advienne, en fait, et que le monde émerge du chaos. Yéhor, que la lumière soit, ce fameux fiat lux. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a son antithèse radicale dans le corpus biblique qui est prononcée par Job, en fait. Et moi, je vais m'intéresser à ça. Pendant 3 ans, bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là pour me dire, j'ai consacré 3 ans de ma vie à essayer de comprendre. Et effectivement, je soutiens cette thèse en 2006. En même temps que j'attends mon deuxième enfant.
Une thèse qui porte donc sur cette figure et sur la figure qui est derrière, qui est cachée, puisqu'on pourrait dire que Job, c'est le juste frappé injustement.
Oui.
C'est celle du malheur, celle de la souffrance.
Oui, parce qu'en fait...
C'est sur cette question que vous travaillez.
Ouais, et ce qui est marrant, c'est toujours cette question de faire système de quelque chose. Donc, évidemment, ce serait hyper rassurant pour tout un chacun de se dire qu'il y a une certaine façon de vivre qui nous protégerait du malheur. Et la religion fait recette de ça. La religion essaye de nous vendre, la plupart des religions, à un moment donné, vont essayer de nous vendre une recette, une façon de vivre qui pourrait nous protéger du malheur. Et ça, dans le système judéo-chrétien, ça s'appelle la rétribution. Donc Dieu est un Dieu rétributeur qui va rendre à l'homme en fonction de ce que l'homme lui donne. Donc ça prend l'aspect d'un marchandage. Et c'est ça que Dieu vient décorréler dans cette discussion avec Satan, en disant « mais moi j'aimerais bien que ce soit pour rien que l'homme me craint en fait ». Pour rien, soit pour tout, en fait. Et ça dessine un autre rapport à la foi, qui soit pas un marchandage, en fait, qui soit pas une foi... ça redessine un peu, on en parlait hier, la religion versus la foi, cette foi de petite fille qui était pour tout, pour moi, enfin pour tout, pour rien, pour tout, juste de l'émerveillement, et qui me permettait très, très, très précocement de la distinguer, de la mettre en... En fait, de la mettre à l'abri de cette récupération systématique que peuvent avoir beaucoup de systèmes religieux. Donc, le système religieux promet une garantie à l'homme en fonction, en échange d'un certain nombre de comportements requis, qui peuvent être purement religieux ou qui peuvent être de l'ordre de la morale, des mœurs, voilà. Et à l'inverse, quelqu'un qui se comporterait mal serait frappé par le malheur. Le truc ne marche pas. Enfin, je veux dire, ça
mais
marche ni plus ni moins.
Comment elle finit cette histoire?
C'est très compliqué, ça. Parce que d'abord, il y a plusieurs auteurs. Alors là, je reprends un peu ma casquette d'ex-exégète, parce que je l'ai été le temps de mon doctorat, même si je suis restée maintenant une bibliste plutôt amatrice. Mais il y a plusieurs couches rédactionnelles. Et ça aussi, c'est assez intéressant dans le corpus biblique. C'est déjà que la Bible, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Et qu'à l'intérieur de chaque livre, chacun se réinvite dans la discussion, en fait. On n'est pas en train de se dire, non, c'est le livre de tel auteur. On se glisse. On se dit, tiens, lui, il l'a écrit comme ça, ça transmet telle image de Dieu, et moi, je vais en défendre une autre. Et alors là, en plus, comme il y a plusieurs amis qui interviennent, qui viennent ensuite discuter avec Job, Job va réfuter, en fait, la question de la rétribution. Enfin, en tout cas, il va justifier, il va réaffirmer en permanence son innocence. Il va défendre de bout en bout qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Et ça crée une pagaille incroyable parce que les amis qui sont là tiennent absolument au système rétributif, tellement il est réconfortant. Donc eux vont essayer d'élaborer des hypothèses théologiques complètement alambiquées pour sauver le système rétributif, non pas sauver Dieu, mais sauver un système qui leur permettent de continuer à se sentir à l'abri de la menace. Et je répète que, aussi archaïque que ça puisse paraître, étant donné que c'est un livre qui a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ, il peut parler à tout un chacun dans le sens où, personnellement, j'adorais qu'on me dise ce qui peut me mettre à l'abri de la menace de tout ce que je redoute au quotidien, à chaque fois que le téléphone sonne. Enfin, on est tous... On doit tous quand même élaborer des stratégies pour ne pas sentir sans arrêt sous le coup de cette menace des pertes,
d'un
des accidents, du malheur en fait, du sort, des coups du sort en fait. Et le système rétributif veut abolir la notion de coup du sort. Il n'y a pas de coup du sort. Il y a toujours une logique. Et c'est ça que vont essayer de défendre les amis de Job. Et chacun va aller avec une autre explication. Donc à la fin, il y a une restitution. Mais c'est un peu, si on s'aventure là-dedans, ça va devenir très compliqué parce que il y a plein de couches rédactionnelles. Et chacun rentre dans cette histoire aussi avec ce qu'il a envie d'y lire et d'y chercher.
Mais vous avez eu envie d'y lire quoi? C'est-à-dire, quelle a été la morale de votre histoire?
La morale,
votre morale,
ma morale de l'histoire de Job. Alors, moi, ma vraie question, elle était de me dire, ok, donc tout ce temps, Job crie à Dieu sa colère envers lui, en disant, mais tu m'as trahi, en fait, on avait un contrat. Il a des discours extrêmement véhéments. Les amis arrivent derrière en disant, mais non, mais certainement que t'as dû quand même faire quelque chose et puis tu t'en souviens pas. Ou non, mais en fait, le système rétributif, il y a un petit caillou dans le rouage, mais tout va rentrer dans l'ordre. Enfin voilà, tout le monde s'excite. Et Dieu, évidemment, évidemment, comme on le connaît si bien, brille par son silence. Et jusqu'à ce qu'à la fin, tout à coup, il y ait des chapitres absolument magnifiques où Dieu prend la parole. Et moi, c'est ces chapitres-là qui m'intéressaient. Mais sauf que il répond absolument pas à la question. Enfin, il n'entre pas dans le débat. Il prend la parole, mais il n'entre pas dans le débat. Et il fait un éloge de l'acte créateur. Voilà. Et moi, ma thèse, c'était de dire qu'en fait, ce que Dieu répond là, c'est qu'il répond précisément à ce yé rocher de Job, à cette volonté de Job de détruire tout le bien fondé de la création parce que le malheur s'abat sur lui. Et que c'est à ça que Dieu répond, très précisément. Et pas à la question de la justice et de l'injustice et du malheur et des coups du sort. Il se situe à un autre niveau. Il dit, j'ai créé le monde, voilà comment je l'ai créé. Il fait une description sublime, en fait, de la création. Il s'attarde sur toutes les stratégies de protection et d'éducation de tout le monde animal, en fait. Les stratégies maternelles, la nourriture, les gestations, la transmission de la vie, en fait. C'est de ça dont il parle. C'est de son acte créateur qui génère, qui fait des créatures, des nouvelles créatrices de vie, en fait. Et c'est cette pugnacité du vivant qui est mise, en fait, en lumière dans ce discours de Dieu que je trouvais sublime. Et dont j'émets l'hypothèse, dont je fais la thèse, qu'il vient dire à Job, tu peux toucher à tout, tu peux être désespéré, tu peux, mais par contre, tu ne remets pas en cause le bien fondé de la création. Ça ne t'appartient pas. Et ça a été un véritable travail universitaire pour moi, mais ça a aussi été un travail spirituel. Dans le sens où, effectivement, il se passe dans ce livre quelque chose au-dessus de nos têtes, au-dessus de la tête de Job, il en aura jamais lecture. Il est pas au courant, lui, de ce qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui fait qu'il arrive ce qu'il arrive, c'est les questions sans réponse. Et en dépit de ça, il y a une réponse qui est donnée, c'est je t'interdis de remettre en cause le bien fondé de la création. Et pour moi, de là, le credo minimaliste, c'est de dire ok, je comprends pas, je suis accablé. Je suis inquiète, je suis soumise à l'angoisse, je suis soumise à la menace, mais je m'interdis par ma foi, en fait, par la foi en ce Dieu de Job, en fait, de dire que bah, si c'est comme ça, c'est pas la peine que quelque chose soit plutôt que rien, quoi. Il y a derrière ça un élan, en fait, et puis ça recadre aussi les choses. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu de ça avec Aurélien Barraud, parce qu'on a donné une conférence conjointe un jour à Genève, sur cette question du vital, en fait. Il parle beaucoup il dit en fait, ce qui ruine notre société aujourd'hui, c'est le prosaïque. Et ça se croisait avec le fait que, pour moi, ce qui ruine la religion, c'est son obsession des mœurs, en fait. Alors que tous les textes bibliques peuvent se relire avec des lunettes vitalistes, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressée aussi. En fait, on est tous au service de la vie. Ça c'est un point commun de tout être vivant. Enfin, c'est peut-être la seule lecture un peu non spéciste que je pourrais avoir, c'est de dire qu'il y a on est traversé par un instinct de vie, un souffle de vie, quelque chose qui nous pousse vers la vie, qui nous rend responsable par rapport à la vie aussi. Et je crois que c'est plus intéressant de se dire que la religion pourrait, et peut-être à l'origine dans ces textes, on peut le lire aussi, se mettre à ce service-là, plutôt que de savoir qui se marie avec qui couche avec qui, en fait, ce qui est en fait une question très secondaire qui, par exemple, n'intéresse pas du tout le Christ dans le Nouveau Testament, il parle jamais de ça, quoi. Donc, voilà, c'est juste...
C'est très important, Marion Muller-Collard, que vous fassiez ce retour sur le livre de Job et sur votre thèse, parce que les années comptent. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous écriviez votre thèse, vous étiez enceinte de votre deuxième enfant. Mm-hmm. Ce second fils, ce petit Félix, qui est né...
Il n'est plus si petit.
Oui, alors à l'époque, en tous les cas, qui est né en 2007.
Oui.
Et il s'est passé quelque chose que vous allez nous raconter 2 mois après sa naissance, qui ensuite a donné lieu à un livre devenu sans doute le livre le plus connu de vous, qui a rencontré un très très grand succès, L'autre Dieu, précisément, paru chez Labor et Fides en 2014, livre phare, mais qui part de ce qui vous est arrivé et qui a à nouveau convoqué Job.
Oui, en fait c'est un livre effectivement à 3 brins avec cette histoire... Mon histoire de mère dans la maladie de Félix, ma thèse, et mon expérience d'aumônier d'hôpital. Voilà. Et alors, il est vrai que donc j'ai fait mon doctorat enceinte. J'ai l'impression que j'étais toujours enceinte d'ailleurs, parce que d'abord il y a eu Manolin, ensuite ensuite Félix. En tout cas, je sais pas si la théologie passe par le lait maternel, mais en tout cas, ils ont été bercés dans de tout petits âges par cette ambiance de recherche et de travail sur Job. Et en l'occurrence, Félix est né. Je venais de soutenir. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais enceinte, d'avoir vu un reportage sur les enfants malades à l'hôpital Necker. Et donc moi, je me braquais. C'est mignon parce qu'on croit qu'en se braquant, on se protège de quelque chose. Donc je me revois devant cet écran en disant « Ah mais non, ça c'est pas possible. Un enfant malade, c'est pas possible. Voir un bébé souffrir, c'est pas possible. » Et je me souviens très bien de ça. Je m'en souviens d'autant plus que c'est exactement ce qui a fini par arriver. Donc on peut se braquer comme on veut. Hein. Et qu'effectivement, Félix a été très, très gravement malade 2 mois après sa naissance, vraiment avec un pronostic vital qui a été engagé pendant quelques semaines. Et donc, ces images de bébé intubé entre la vie et la mort que j'avais pu voir à travers un écran, mais là, il n'y avait plus d'écran, c'était mon fils. Et je venais de consacrer 3 ans de ma vie à poser la question de pourquoi le mal, etc.
Et que les choses n'ont pas été prévues ainsi et que ça nous tombe dessus.
Oui, ça, c'était cette 4e de couverture du livre de Claire Marin, Hors de moi. Il y a une seule phrase sur cette 4e de couverture. Les choses n'avaient pas été prévues ainsi. Et cette phrase, elle contient énormément de choses, en fait. Et c'était devenu quasiment un mantra pour moi qui faisait, en fait, l'articulation entre ce refus d'obstacle, je me cabrais de toutes mes forces devant ce qui était en train de se passer. Tout ce que j'avais travaillé de façon plus intellectuelle sur un bureau, à l'abri du malheur, de façon très théorique pendant 3 ans. Et les expériences que j'avais déjà commencé à faire en tant qu'aumônier d'hôpital, c'est-à-dire que ces fractures du cours de vie, en fait, je les avais souvent observées. Voilà, là, je la vivais. J'en ai vécu plusieurs hein, dans ma vie, mais peut-être celle-ci a été la plus douloureuse. Je sais pas comment dire. Mais parce qu'on se dit, oui, bon, ben, tant que c'est théorique, ça vaut pas, en fait. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il y avait un point de rendez-vous, là, il y avait un espèce de carrefour de quelque chose de très nodal à ce moment-là, où effectivement tout ce que j'avais pu penser était mis à l'épreuve, mais était aussi confirmé, en fait.
Oui, parce que si je reprends ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a quand même eu là une menace qui vous est tombée dessus,
oui.
Avec ce sentiment que c'est injuste et que rien n'a, ni lui, votre fils, ni vous, ne méritiez ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ça vous arrive? Et puis, vous racontez comment cette épreuve, alors même que Félix a été sauvé, vous a plongé dans la dépression. Ce que vous appelez la plainte ensuite et que vous avez retrouvé d'une certaine façon à l'hôpital auprès d'un certain nombre de personnes. Mais commençons peut-être par vous, on viendra à l'hôpital après.
Mais parce que, effectivement, ce qui est fou, c'est que c'est le coup et le contre-coup. Alors, il faut distinguer deux choses. La menace, c'était qu'il meure. Il n'est pas mort. Mais il y a quelque chose qui est arrivé et qui ne s'efface pas. C'est de l'avoir vu, de voir un être auquel on est profondément attaché souffrir, et en étant impuissant, et d'autant plus un bébé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la parole. Enfin, vraiment, je sais que ces moments-là sont des moments qui sont restés des traumatismes, en fait. Donc ça, cette menace-là a été tombée, elle est irréversible, même si l'issue a été, pour notre plus grande joie, celle de la vie, de sa vie à lui. Et ce que j'ai observé, c'est que en fait j'ai tenu pendant tout ce temps-là, j'ai tenu de façon plutôt efficace. En plus, mon rôle de mère, j'ai su, je crois aussi, poser les bonnes questions, faire les bonnes alliances avec les médecins. Il y a eu plein de rebondissements. Enfin, ça a été vraiment une traversée complexe, en plus d'être douloureuse. Et en fin de compte, je me suis effondrée une fois que Félix était sorti du risque. Et donc, c'est là que j'ai repensé à mon vieil ami Job. Parce que finalement, Job, ce qu'il perd, c'est la garantie. Il y a deux choses différentes dans la perte. Il y a la perte matérielle, objective, affective, qu'on peut, enfin, ces pertes-là qu'on peut vivre à travers les deuils et les accidents de nos vies. Mais il y a aussi la perte d'un sentiment de sécurité qui met au jour, en fait, les pensées magiques qu'on a eues pour se sentir à l'abri de la menace. En fait, on est tout le temps à l'os un peu, hein, en réalité. On est quand même, l'existence nous met à l'os. Sauf qu'en fait, on ça c'est la réalité la plus brute qui soit. Et donc, on est des êtres de culture, de narration, de croyance aussi. On est une espèce fabulatrice, comme dit Nancy Houston. Donc, on se fabrique en fait des gris-gris en permanence, de toutes sortes, de toute nature. Et les accidents viennent nous les percuter, nous les faire perdre, en fait. Il y a cette autre perte, il y a ce qu'on perd objectivement, et il y a la perte, en fait, de recours plus ou moins conscient, plus ou moins culturel, plus ou moins partagé, plus ou moins communautaire ou individuel, mais en tout cas des recours qu'on a pu se fabriquer pour ne pas se sentir en permanence en contact de la menace. En fait, elle est là, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tout l'art de vivre est d'oublier cette chose qui est suspendue au-dessus de nous. Et donc, et c'est là que la religion s'infiltre et propose plein de solutions, etc. Et je me suis rendu compte que je faisais une petite crise jobienne, en fait. C'est-à-dire de dire, mais alors attends, si on peut mettre des enfants au monde être soumis à l'épreuve effroyable de les voir souffrir. En l'occurrence, moi, je l'ai vu partir en réanimation, vraiment en train de mourir, en fait. Donc, j'ai vu le visage en détresse totale d'un bébé de 2 mois qui me regardait avec une intensité que j'ai jamais revue après, de « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et tu peux rien faire. Enfin, voilà. Et sans la parole. Et donc ça, moi, je dis « moi, j'ai plus envie de jouer ». Donc, en fait, j'ai boudé. En fait, j'ai fait une grande bouderie existentielle, mais j'avais pas de partenaire pour bouder. Tout le monde s'en fiche que je boude. La dépression, c'est un peu ça, on boude, mais tout seul, il n'y a pas de négociation possible, mais on boude profondément. Et c'est difficile de se remettre de ça. Et c'est vrai que j'ai eu un directeur de recherche, Alfred Marx, que j'aime beaucoup et avec qui j'ai eu un immense plaisir à traverser ces 3 années de recherche doctorale, et qui m'avait dit, après ma soutenance, ce serait bien qu'un jour vous écriviez, parce que c'est quand même votre truc, l'écriture, et ce serait bien que vous fassiez un truc avec cette thèse, voilà. Et en fait, quand ça s'est posé plus tard, j'étais un peu à distance de ce que j'avais vécu avec Félix. J'avais déjà pas mal d'expériences d'aumônier et de ces fractures là des cours de vie. C'était le moment où je suis arrivée à voir en fait que tout ça se tenait, et poser la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait croire en Dieu. Est-ce que ça peut vouloir dire autre chose que une pensée magique qui nous prémunirait du malheur, et voilà. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont articulées.
Et je crois que vous avez commencé les visites à l'hôpital le jour du premier anniversaire de Félix.
Oui, c'était fou, oui, ce timing.
Et vous avez rencontré dans une unité gériatrique 3 femmes qui chacune avait perdu un enfant,
ouais,
c'est ça ?
C'était complètement dingue, ouais,
est-ce que,
ouais.
Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ressort par la grâce, qui est le 3e terme du sous-titre de votre livre. Vous y avez, ouais, on a parlé de la plainte, la menace, mais alors, elle est où la grâce ? C'est-à-dire, comment on sort de tout ça, quoi ? Comment elles s'en sont sorties ? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? En quoi la figure de Job vous a-t-elle aidé ? Qu'est-ce qui fait qu'on remonte la pente ?
Bah, peut-être en renonçant, justement, à s'infliger la double peine du malheur et de la malédiction. Et ça a été beaucoup ça, mon métier d'aumônier. Tiens, en fait, si déjà on doit encaisser le malheur, si on pouvait éviter de le lire en plus comme une malédiction, ça change beaucoup de choses. Et donc, c'est de décorréler le malheur et la malédiction qui permet peut-être pas de vivre quelque chose de l'ordre de la grâce, mais en tout cas de ne pas charger la barque, quoi. Parce que le sens qu'on va donner aux choses, c'est un pouvoir fou sur notre façon de le vivre. Il y a ce qu'on vit et il y a comment on raconte ce qu'on vit. Et là, on peut parler aussi de la littérature. Et en fait, ça change tout. Quelque chose qu'on n'arrive pas à raconter, ou quelque chose qu'on raconte d'une certaine manière, par exemple, j'ai perdu tous mes enfants parce que j'ai déçu Dieu. Cette fameuse question, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? C'était drôle d'ailleurs quand j'étais aumônier d'hôpital, parce que quand je me présentais à des patients sans tout du tout présumé de ce qu'était leur position et leur conviction et même leur confession. Beaucoup me disaient « Ah ben non, ben c'est gentil pour votre visite, mais moi je suis pas croyant, donc voilà. » Je disais « Bah très bien, merci, au revoir, enfin voilà. » Et quand ça commençait comme ça, généralement je restais 2 heures. Et ils me disaient « Mais quand même, je me demande ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça. » Donc la double peine pour ce fameux bon Dieu, c'est-à-dire que déjà, on croit plus tellement en lui, mais en plus quand on croit en lui version salopard, quoi. Version « Ah tiens, je t'envoie un bon petit cancer, ça va te faire réfléchir. » Bah non, ça fait pas réfléchir. Et voilà, et ce travail de décorrélation, il est fait aussi par Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a ce texte de l'aveugle-né avec les disciples qui sont encore très pris dans ce système rétributif et qui viennent voir en disant « Mais mince, alors un aveugle de naissance, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est lui qui ont péché? Est-ce qu'il a pu pécher à la naissance? Mais peut-être c'est ses parents. » Et ça n'intéresse pas du tout le Christ qui dit ni lui ni ses parents et qui va pousser en fait du pourquoi vers le comment en fait. Ça, c'est très important aussi. Quand on est frappé par le malheur, la question du pourquoi, elle nous engloutit. En fait, c'est une impasse. La vraie question, c'est le comment. C'est maintenant que j'en suis là. En fait, comment je m'en sors? Alors, c'est sûr que je m'en sors super mal si en plus je pense que j'ai mérité ce qui m'arrive ou qu'il doit y avoir un dieu obscur qui joue avec moi comme avec une marionnette. Donc voilà, donc c'était vraiment ça le travail, et ça a été vraiment mon travail d'aumônier d'hôpital pendant 7-8 ans.
Pendant 7 ans, oui, c'est ça. Vous êtes restée aumônière alors à Colmar, à Mulhouse, ouais. De 2007 à 2013. À la fin de l'année 2013, Marion Muller-Collard, vous quittez le ministère de l'aumônerie. Peut-être pour vous consacrer à l'écriture, en tous les cas.
Très sûrement pour ça.
Notre Dieu apparu en 2014, mais il y avait déjà eu en 2011 un premier livre pour enfants, La prunelle de mes yeux. Oui. L'écriture et l'enfance, c'est ce dont nous parlerons dans l'épisode suivant. Volontiers. Merci et à demain.
Merci.
À suivre l'épisode 3, on est toujours du pays de son enfance. C'était À Voix Nue avec Marion Muller-Collard, réalisation Guillaume Baldi, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.